EDFM 930, c'est l'heure de l'info.
L'info près d'ici.
Sur DFM 930, reportage.
Retrouvons Monsieur David Topiac, député du Gers, à l'occasion de ses vœux qui ont été donnés à Ordans-la-Roque le jeudi 29 janvier.
L'info en région.
Alors merci pour votre présence ce soir pour cette deuxième cérémonie des vœux. C'est la deuxième année que j'organise cette cérémonie. On fait le bilan de l'année, puis de parler de l'année 2026 avec les gros enjeux que concerneront toujours pour moi la santé et l'agriculture. Donc sur l'année en chiffres, la présence sur le terrain, donc les dossiers sont nombreux, 933 dossiers qui ont été traités. Des dossiers économiques, personnels, de recherche d'emploi, de recherche de logement, d'aide aux collectivités, de recherche de subventions. Donc c'est un sujet assez fourni et ça demande beaucoup de travail à mon équipe. Des rendez-vous que je reçois individuellement, donc 170 rendez-vous pour là aussi accompagner des dossiers un peu particuliers. 1100 déplacements sur le territoire, à peu près 37 000 km dans l'année, 3-4 jours à Paris. Ça, vous imaginez ce que ça représente du coup, puisque à Paris, je n'ai pas de kilomètres comptabilisés. Et puis à peu près 750 amendements ou des propositions de loi qui ont été déposées ou co-signées. Certaines que j'ai portées directement, d'autres que j'ai co-signées de la part de collègues qui m'ont sollicité. Évidemment, l'année 2026, si je reprends les vœux que j'ai faits il y a un an, je parlais de la nécessité de trouver des compromis, d'avancer, de voter des budgets, parce que la France ne peut pas rester en attente jusqu'en 2027, les prochaines élections présidentielles et législatives. Et finalement, ce que j'évoquais l'année dernière, c'est un peu concrétisé cette année, c'est-à-dire qu'avec ce manque de majorité, cette instabilité, on a réussi à trouver malgré tout des majorités, projet par projet. Dans le cadre du budget, il y a des majorités qui ont été trouvées aussi. Bon, on a pris acte de changement quand même, de l'échiquier politique avec une organisation tripartite. Désormais de l'Assemblée qui fait que les majorités ne sont plus au rendez-vous. Peut-être que c'est un format qui sera appelé à perdurer, donc on verra dans 2027. Donc ça nous a obligé à faire plus de compromis, à essayer de travailler sur des textes dont on pouvait trouver des accords. Voilà, donc c'est un changement de culture politique qui vient suite à une crise qui est quand même assez profonde. On peut considérer que 2025, bien que le contexte soit très compliqué et déstabilisant pour nos concitoyens, on a avancé un petit peu et on arrivera à doter la France d'un budget qui n'est pas parfait et qui ne correspond pas à tout le monde, puisque c'est l'objet d'un compromis. Donc tout le monde y retrouve un peu ce qu'il souhaitait y voir et il retrouve ce qu'il ne voulait pas y voir non plus. Donc c'est l'objectif d'un compromis. Voilà. Sur les dossiers sur lesquels j'ai travaillé dans le département, donc il y a les sujets de l'emploi et les sujets économiques. On voit que l'instabilité politique, elle est venue fragiliser un peu plus notre économie, on le voit. Alors l'économie est fragilisée parce qu'il y a une crise mondiale aussi, qu'il y a des contextes géopolitiques qui nous percutent avec la fin du multilatéralisme et des décisions unilatérales des États-Unis, de la Chine pour mettre des taxes. Ça percute beaucoup l'économie mondiale. L'instabilité politique française en a ajouté, ça c'est une certitude, de nombreuses difficultés, y compris dans notre département, et j'étais fortement mobilisé au travers des salariés et des syndicats sur les dossiers comme Gerstube, comme Senlab, le laboratoire d'analyse à Auch, le dossier d'Elpera qui est de Florence et de Vic-Fezensac, les Ducs de Gascogne à Gimont, on pourrait parler aussi des artisans qui travaillent sur le bâtiment de France Travail à Condon, où il y a aussi des enjeux énormes. Donc ça m'a beaucoup mobilisé. Puis la CAPEB, les artisans, absence de budget pour MaPrimeRénov', n'ont pas la possibilité d'avoir un dispositif qui est incitatif pour les ménages pour lancer des travaux. Et puis des sujets comme l'abattoir d'Auch, sur lesquels on est très attentif, parce que c'est la valorisation d'une filière de l'élevage qui était des revenus depuis quelques années assez intéressants du point de vue rémunération. Donc l'objectif, c'est aussi de continuer à être en appui. Vous savez, avec ce qui était avant la réserve parlementaire qui est devenu le fonds de développement de la vie associative, on est très impliqué pour continuer à soutenir les acteurs associatifs qui joueront un rôle important dans un département rural comme le Gers, et dans l'activité culturelle, sportive, mais solidaire aussi, donc ça c'est important. Il y a le sujet des services publics, des infrastructures, on va parler des infrastructures, on va parler évidemment des enclavements de la 124 qui aboutira dans quelques mois, ce qui est une très bonne nouvelle, du ferroviaire, il y a toujours des combats à mener pour qu'on sécurise la ligne pour aller jusqu'à Toulouse, qui est un enjeu important. Puis il y a tout le sujet des écoles en milieu rural. On avait il y a un an le sujet de Casaubon, je me suis battu. Bon, avec le département, il faut qu'on trouve des solutions pour pérenniser nos écoles, avec les communes aussi. Il faut revoir les schémas des RPI parce qu'il y a une baisse d'effectifs. Et que si on veut continuer à mailler le territoire, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions en lien avec l'éducation nationale. Voilà. La crise agricole d'un côté, avec d'un côté l'urgence absolue. L'urgence absolue, c'est que dans notre département, on a pratiquement 50% des agriculteurs qui sont ou qui vont être dans les prochaines semaines en situation de défaillance. Et c'est un vrai cataclysme pour le territoire. Au niveau national, l'agriculture a perdu 5 milliards sur l'excédent commercial en 2025 pour passer un négatif depuis la première fois depuis 40 ans peut-être. Si on prend les grandes cultures, 2024, moins 4 000 euros, 2025, moins 8 000 euros de revenus. Viticulture, moins 8 000 l'année en 2024, moins 25 000 en 2025. La crise est profonde. Le problème est d'urgence absolue. Le Premier ministre a annoncé une loi d'urgence qui va arriver, cette loi d'urgence ne traitera que des problèmes un peu structurels pour le moyen long terme. Si on ne fait pas de l'urgence absolue, les lois qui vont être votées ne concerneront que les 50% qui vont survivre. Moi, mon objectif, c'est d'avoir des mesures d'urgence qui sont annoncées depuis plusieurs mois, qu'elles se concrétisent. Il y a des mesures pour la viticulture, sur le plan d'arrachage, la distillation de crise. Il y a des mesures pour l'agriculture, plus largement, les prêts à la trésorerie garantis par la BPI. Pays que l'on attend avec de nouveaux critères. Je me suis battu là-dessus avec le Crédit Agricole. Des exonérations de taxes sur le foncier non bâti, des aides de soutien à certaines filières comme le bio qui est vraiment en très forte crise et puis des aides sur la partie épizootie, notamment sur la DNC pour les broutards qui vont être bloqués et qui vont devoir être conservés par les éleveurs plusieurs mois de plus. Il faut qu'on les indemnise aussi. Les enveloppes ne sont pas au niveau. Et puis il y a les enjeux de prise en charge des vaccinations, y compris sur la grippe aviaire. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur le côté sanitaire. Ça, c'est l'urgence. Ces mesures sont dans les tuyaux, certaines dans le budget, d'autres étaient annoncées avant, mais elles dépendent du budget. Si elles ne sont pas concrétisées avant la clôture comptable des exploitations qui sera au printemps, eh bien, on aura un cataclysme dans notre département. Moi, je me bats pour ça, l'urgence absolue. Et après, évidemment, il y a des mesures structurelles sur deux grands piliers que moi je porte, c'est sécuriser la capacité à produire, parce qu'on n'arrive plus à produire à cause des aléas climatiques, on n'arrive plus à produire à cause des maladies sur l'élevage, on n'arrive plus à produire parce que la PAC n'est pas incitative, elle incite parfois de la non-production pour faire de la coriandre ou ne pas produire. Donc, il faut qu'on remette l'acte de production au cœur de l'agriculture. On a perdu beaucoup de capacité de production, il faut qu'on reproduise. Ça, c'est un enjeu. Produire en respect de l'environnement, dans le respect des normes sanitaires aussi, mais il faut produire. Et je pense qu'il y a tout un tas de mesures sur la production que moi je porte. C'est-à-dire, on produit, mais il faut qu'il y ait du revenu, il faut qu'il y ait du prix. Et là, pareil, il faut qu'on ait une PAC qui soit plus rémunératrice, qui intègre la particularité du sud-ouest qui fait que nous sommes ni en zone montagne où il y a des aides fortes, ni en zone de plaine où il y a des gros rendement. Nous sommes sur des zones intermédiaires qui ont besoin d'un appui particulier. Et donc on se bat à plusieurs, au niveau européen et national, pour un dispositif d'aide aux coteaux, qu'on pourrait appeler d'aide à zones intermédiaires. Voilà. Donc je rappelle, l'urgence, c'est quand même qu'on ait les mesures qui arrivent très rapidement. Sinon, les mesures structurelles concerneront plus que la moitié des agriculteurs. Et on va voir l'onde de choc économique se propagera dans le département. Qui est quand même la préoccupation numéro un de nos concitoyens. Ne pas avoir accès à un service de santé, c'est être en insécurité soi-même et sa famille. Donc, c'est un des premiers vecteurs pour sécuriser nos concitoyens dans leur vie en milieu rural, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Donc, on a réussi à faire voter notre proposition de loi sur les déserts médicaux, sur laquelle je travaille avec plus de 150 députés de manière transpartisane depuis maintenant 3 ans. Elle a été votée à l'Assemblée nationale l'année dernière. On se bat pour qu'elle soit reprise au Sénat et qu'elle soit votée au Sénat. Il y a dedans notamment la régulation d'installation de médecins, la suppression des majorations des consultations de médecins traitants, l'attractivité même du métier du médical, donc c'est la revalorisation des oubliés du Ségur qui est un combat que je mène historiquement, le renforcement de la sécurité des soignants parce qu'ils sont aussi pris à partie et qu'on a besoin de les protéger, puis le soutien en milieu rural au transport sanitaire qui est quand même déterminant pour que nos seniors qui vivent un peu éloignés des services de santé aient un accès au transport sanitaire pour aller voir des spécialistes. J'étais un soutien évidemment de l'hôpital spécialisé, l'hôpital Psy à Auch. J'avais fait venir le directeur général de l'ARS pour régler le conflit et puis prendre des engagements, ce qui a été fait. Le maintien des lits à Lombès, qui est le dernier combat de ces dernières semaines. Les travaux sur l'hôpital d'Auch, le soutien au personnel de l'établissement public de santé d'Alomagne, qui a été en crise pendant de nombreux mois l'année dernière. Le soutien financier à l'EHPAD de la Ténarèse, qui rencontre des difficultés. Ma mobilisation dans la continuité de ce qu'avait fait Gisèle Biémouré sur l'hôpital de Condon, où nous avons enfin l'IRM qui arrive, qui sera opérationnel en février. salariés et derrière le projet de restructuration des urgences qui marche extrêmement bien comme don et qui va être lancé. Et puis le service de soins infirmiers à domicile de DEMU, voilà, qui va être dispatché entre Lix-Fezensac et Oss, sur lequel j'ai été beaucoup impliqué pour trouver des solutions avec les communautés de communes. Thermalisme, qui est important pour Lectoure, Casteraves, Duzan et Barbotan, je me suis battu avec le groupe d'études sur le thermalisme dont je suis vice-président pour pas qu'il y ait de déremboursement. Et les changements de financement qui étaient prévus sur les officines de pharmacie qui pouvaient mettre à mal les petites pharmacies en milieu rural. Donc voilà, beaucoup de sujets de mobilisation, chaque fois avec le personnel, avec les directeurs, avec les élus locaux. Voilà, ça m'a beaucoup mobilisé. Tous les sujets un peu plus sociétaux en lien avec la santé sur lesquels on a obtenu de nouveaux droits. On pourrait parler de du droit à mourir dans la dignité qui va revenir, qui est actuellement au Sénat et qui reviendra dans les prochaines semaines. J'espère qu'on aura enfin un vote sur ce texte qui est important, hein, et que je soutiens. La redéfinition pénale du viol avec le consentement qui a été rajouté, l'acquisition de congés supplémentaires de santé. Et puis on a des choses plus méconnues comme le dépistage de l'amyotrophie spinale à la naissance, d'une maladie qu'on ne recherchez pas. Si les enfants sont traités dès la naissance, ils ont leur chance de survie est décuplée. Mais si on ne les traite qu'une fois que la maladie est découverte à 2-3 ans, c'est déjà trop tard. On a réussi à élargir l'expérimentation qui était faite sur deux régions. Donc maintenant, tous les enfants sont dépistés et on leur redonne des perspectives. Voilà. Vous le voyez, c'est à la fois des textes sur Paris, des combats sur le terrain, sur des sujets évidemment similaires. Donc ce qui se passe sur le terrain me donne de la force pour interpeller les ministres à Paris, où je suis souvent dans les ministères. Je pense que l'instabilité a amené quelque chose d'intéressant, c'est que comme il n'y a plus de majorité, les portes des ministères sont plus ouvertes et qu'on peut aller porter des dossiers dans les ministères dans la mesure où on en a la volonté, la conviction et qu'on sait être percutant sur les dossiers. Et ça, c'est vrai que j'ai été très présent dans les ministères, notamment celui de l'agriculture, pour porter les sujets qui sont très particuliers à notre territoire du Sud-Ouest. Et dans l'année qui arrive, le gros enjeu va être celui de l'agriculture, comme je vous disais. Si on ne fait rien dans les mesures d'urgence, on va avoir un cataclysme pour l'agriculture et l'économie du département, et on le verra ça d'ici le mois de juin. Donc l'urgence, elle est là.
Justement, au niveau de la santé et de l'agriculture, vous aviez un dossier très intéressant concernant la pollution de l'eau. Est-ce que ça aussi, ça fait toujours partie de vos priorités?
Oui, je travaille toujours avec un collectif d'agriculteurs de la Haute-Garonne pour développer une filière du miscanthus, dont c'est une plante qu'on pourrait cultiver sur des zones qui ne sont pas cultivables aujourd'hui pour la protection de la ressource en eau et de la qualité de l'eau. Donc, et c'est intéressant parce qu'on pourrait faire une valorisation de ce miscanthus sur des filières. Évidemment, pour la biomasse, c'est une plante qui n'a pas besoin d'intrants pour être cultivée et qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais et qui en plus filtre l'eau, filtre les sols sur les nitrates et représente un potentiel de biomasse assez important qu'on pourrait notamment valoriser pour l'aéronautique. Et je fais le lien avec mon métier de base qui est l'aéronautique et je travaille donc avec des énergéticiens pour voir comment on pourrait créer une filière de valorisation et de transformation du miscanthus pour faire des carburants durables d'aviation. Donc de l'agriculture dans le respect de la qualité de l'eau, peut-être au service de la décarbonation de l'aéronautique, c'est quand même un sujet intéressant. Comme je suis assez identifié sur l'agriculture, ce sont des collègues parlementaires de Haute-Garonne qui m'ont passé le dossier, ils m'ont dit tu connais à la fois l'aéronautique et l'agriculture, il y a sûrement quelque chose de vertueux à faire et je travaille là-dessus depuis plusieurs semaines avec des scientifiques, des bureaux d'études, des agriculteurs et j'espère bien faire avancer ce sujet. Le couple franco-allemand n'est plus le couple moteur de l'Europe. Et donc la parole de la France, c'est de l'Europe, elle a besoin d'être affirmée. Je pense que nous, on a un sujet qui, à mon avis, correspond bien au contexte géopolitique mondial. On est quand même, je pense, les mieux placés aujourd'hui en Europe pour faire avancer le sujet de la défense européenne. Et ça, je pense que c'est un sujet important. Le sujet défense et le sujet diplomatie sont les deux sujets sur lesquels on doit s'affirmer plus que tout. Je pense que la Commission européenne a beaucoup trop de pouvoir et que Mme von der Leyen prend des dispositions, notamment sur le sujet agricole, à la fois dans la baisse des budgets de la PAC, à la fois sur le Mercosur, qui sont très impactants et on a l'impression d'être dépossédé d'une décision. Heureusement, le Parlement européen a saisi la Cour européenne de justice pour vérifier la conformité du Mercosur avec les traités européens, mais je pense qu'il y a un rééquilibrage fort à faire au sein des institutions européennes entre plus de pouvoir, de mon point de vue, pour le Parlement européen et faire en sorte que la Commission soit au service du Parlement et des nations, parce que j'ai un peu l'impression que les décisions sont prises de manière un peu unilatérale et au forcing. Le Mercosur arrive à un moment où le multilatéralisme est en train de mourir et c'est des décisions unilatérales imposées par les uns les autres. L'Europe, elle n'agit aujourd'hui qu'en réaction à des décisions unilatérales qui nous arrivent des États-Unis et de la Chine, tant d'un point de vue économique avec des taxes que d'un point de vue militaire, que d'un point de vue diplomatique, il faut que l'Europe soit force de proposition et qu'elle s'affirme elle-même désormais. Il ne faut pas avoir peur non plus de reparler de protectionnisme en termes économiques. Moi, je pense qu'il n'y a pas de gros mots. Comme pour l'agriculture, il ne faut plus avoir peur de parler de production agricole et de l'acte de produire. Et derrière, le plus gros enjeu, à mon sens, dans l'affirmation, c'est dans la diplomatie, la défense, effectivement. Donc, il faut qu'on ait une vraie ambition diplomatique, mais il faut qu'on accorde nos violons à l'échelle européenne et qu'il y ait une vraie défense derrière. Les deux sont complémentaires. Mais aujourd'hui, la volonté n'est pas partagée par tout le monde encore. Et les postures ne sont pas les mêmes. Dans les sollicitations de territoire que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, d'agriculteurs ou autres qui me sollicitent parce qu'ils ont de la main-d'œuvre étrangère saisonnière qui vient, ils ont de la main-d'œuvre régulière qui est ici, ils demandent des papiers, ils demandent à les régulariser parce que ces migrants, ils ont un rôle économique et social qui est important pour notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans des caricatures un peu populistes, mais que le sujet économique, moi, il est confirmé sur mon territoire. Si je prends la viticulture, je prends l'artisanat, j'ai pas des demandes chaque semaine, mais j'ai des demandes régulièrement pour que des gens qui sont arrivés sur notre territoire puissent s'installer durablement parce qu'ils ont une valeur ajoutée pour notre économie. Et dans un pays où la pyramide des âges et la démographie est en berne, notre économie a besoin de bras, a besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, elle peut être aussi, et elle l'est déjà aujourd'hui, mais on a une attitude un peu ambivalente. D'un côté, on voit bien qu'on a besoin de cette main-d'œuvre, mais d'un autre côté, on est en train de durcir les lois au maximum pour répondre à des aspirations purement populistes. Déconnecté d'une réalité économique et sociale. Et je pense que moi, dans mon rôle du quotidien, le message que je fais souvent passer aux filières, je dis, vous voyez, entre quand on a des difficultés à régulariser des gens qui sont arrivés pour saisonniers qui voudraient rester un peu plus durablement, je dis, ben oui, ça c'est lié à une loi qui a été votée l'année dernière sur laquelle il y avait tout le monde. Moi, je ne l'avais pas votée forcément, mais l'opinion publique était favorable. Mais elle ne se rend pas compte qu'une fois qu'elle est votée, elle va être impactante. Et là, je me retourne sur les discours. Ah oui, mais mon voisin ou ceux que je connais, ceux-là, il faut qu'ils viennent et les autres non. Je pense que quand on connaît les gens et quand on connaît le terme migrant, ça déshumanise les gens. Mais quand on remet de l'humain derrière, les gens se disent mais oui, on a besoin d'eux. Puis en plus, c'est des gens qui nous amènent des choses pour notre territoire. Voilà. Et je pense qu'il faut remettre un peu de l'humain dans tout ça parce que ces termes-là, on peut déshumaniser des gens qui joueront un rôle important pour notre pays. Voilà, tout simplement.
Sur DFM 930, c'était monsieur David Topiak, député du Gers. À l'occasion des vœux sur le secteur de Ordan-Larocque, c'était le 29 janvier dernier.